Bonjour à tous, bienvenue sur Rotrou en air. Aujourd'hui, nous allons aborder des sujets bien différents, mais tous sur la consommation. Caroline va nous parler de l'entreprise Champaille qui fabrique des pailles biodégradables. Charles du fromage et nous retrouvons Dimitri pour sa chronique D. Et nous commençons par Caroline. Bonjour Caroline.
Bonjour Maëva, bonjour à tous. De nos jours, l'utilisation du plastique est interdite dans les emballages alimentaires ou dans les couverts tels que les pailles, les fourchettes, les couteaux, les cuillères ou encore les assiettes. Mais sans le plastique, quelle solution avons-nous ? Pour répondre à cette question, nous avons interviewé Séverine Châtaignier de l'entreprise eurélienne Champaille qui fabrique des pailles en seigle et nous sommes intéressés à une entreprise française, Couvi, qui fait des couverts comestibles. Bonjour Séverine. D'où vous est venue cette idée de faire des pailles en seigle ?
L'idée m'est venue de mes enfants qui utilisaient des pailles en plastique pour prendre leur petit déjeuner le matin. Et en fait, je leur ai expliqué que les pailles en plastique allaient être interdites à la commercialisation. Ils se demandaient comment on allait faire et en plaisantant, je leur ai dit qu'on allait faire comme mes grands-parents, à savoir prendre des pailles en paille. Donc, de là a germé l'idée et en fait, en creusant un petit peu le sujet, effectivement, j'ai vu que on pouvait utiliser des pailles, alors plutôt en seigle parce que le seigle est beaucoup plus résistant que le blé pour faire des pailles. On l'avait déjà les pailles en plastique à la maison, on n'était pas en usage unique parce que je trouvais ça vraiment dommage en fait d'utiliser une seule fois les pailles. Donc voilà d'où est venue l'idée en fait.
Et combien de fois vos pailles sont-elles réutilisables ?
Alors si elles sont bien utilisées, si elles sont pas cassées en fait, une dizaine de fois sans problème. À partir du moment en fait où elles sont pas fissurées, il n'y a pas de problème quoi. Après c'est vrai que si quelqu'un mord la paille, il suffit de mettre un petit coup de ciseau pour enlever la partie supérieure qui a été un petit peu cassée et puis la paille est à nouveau utilisable.
Et vous avez eu beaucoup de demandes avec ces pailles ?
Oui, alors en fait, on a des demandes beaucoup de cafés, restaurants qui choisissent en fait de passer aux pailles en seigle suite à l'interdiction des pailles en plastique. Et puis après, des particuliers également qui sont dans une démarche, on va dire, responsable, qui sont intéressés par ce type de produit.
Et au niveau de l'impact environnemental, pensez-vous que changer les pailles, donc ne plus utiliser de plastique, ça a un réel impact ?
Oui, tout à fait. En France, il y avait 3 millions de pailles qui étaient utilisées en fait par jour, donc c'est quand même énorme. Alors déjà, le principe, c'est que on n'a pas forcément toujours besoin de boire avec une paille. Hein. Ça me paraît déjà évident. Je pense qu'il faut réserver la paille à un usage en fait un peu festif ou ce genre de choses. Ou alors après, bon, il y a certaines personnes qui ont besoin de boire avec une paille pour des raisons différentes, comme par exemple les personnes âgées. Mais après, effectivement, le fait d'utiliser une paille qui est déjà issue d'une ressource naturelle, qui est renouvelable et qui en fait à la fin de vie, qui retourne à la terre, soit elle est compostable ou alors si elle va à la poubelle, elle est biodégradable. Ça me paraît effectivement être une bonne démarche, sachant en plus qu'on est sur une consommation, enfin un produit qui est produit localement, donc ça a tout son intérêt.
Bah, très bien, merci beaucoup pour vos réponses.
Je vous en prie.
C'est très intéressant.
Merci beaucoup.
Merci Séverine Châtaignier pour cette interview enrichissante. Nous savons à présent où acheter des pailles tout en faisant un geste pour l'environnement. Et je vais vous dire quelque chose. Il n'y a pas que dans les verres que nous pouvons être responsables envers l'environnement. Dans nos assiettes aussi, ou plus précisément, ce qui nous sert à manger ce qu'il y a dans nos assiettes. Les couverts, mais aussi les assiettes peuvent se manger. Ils font partie du repas, et Couvi est une entreprise française qui illustre bien cette nouveauté. Elle concocte des cuillères et des fourchettes en pâte à biscuits, avec des goûts très variés. À la menthe pour un dessert, à la provençale avec une bonne salade, ou nature pour tout repas. De plus, ces couverts comestibles résistent à des liquides sous haute température. Vous pouvez remuer votre café ou votre thé sans crainte de retrouver des petits bouts énervants de biscuits au fond de votre boisson. Et si vous voulez faire encore moins de vaisselle, des tasses et des assiettes comestibles sont créées par une entreprise belge nommée Do It. Elle propose elle aussi une large gamme de produits et de goûts pour toutes vos envies.
Passons de la paille au fromage avec Charles et sa chronique fromagère.
L'Eure-et-Loir, une très belle région de France, ses églises, ses châteaux, ses forêts et bien sûr, ses fromages. Son veuf cendré, aussi connu sous le nom de cendré de la Beauce, est un fromage à pâte molle, au lait cru de vache, et sa feuille de dreux, fromage à pâte molle et au lait de vache également, mais pasteurisé. Malheureusement, il ne subsiste que la feuille de dreux qui fait de la résistance, Fromage artisanal à la coagulation lente, dû à un faible emprésurage. Mais de quoi parle-t-on exactement? Au final, qu'est-ce qu'un fromage et d'où vient-il? Le fromage est un aliment fabriqué à partir de lait, cette boisson blanchâtre produite par les mammifères femelles. Son origine daterait du néolithique qui se caractérise, entre autres, par la domestication des animaux qui commence par les ovins et les caprins, les moutons et les chèvres, ou plutôt les brebis et les chèvres. Soit dit en passant, dans la comptine, il était une bergère, héron, héron, petit patapon, la bergère ne peut pas faire de fromage avec le lait de ses moutons. À l'élevage des ovins et des caprins suivra celui des bovins, les vaches. Enfin, revenons à nos moutons, enfin nos chèvres, plutôt notre fromage de chèvre. La légende veut que le fromage soit découvert par hasard lors du transport du lait. En effet, le lait était stocké dans des récipients faits de restes d'animaux, comme l'estomac, qui contient un élément particulier, la présure, qui fait coaguler le lait. D'observation en observation, nos ancêtres se sont aperçus que filtrer ce lait coagulé, le caillé, permettait une meilleure conservation. Les fouilles archéologiques montrent que de la Mésopotamie à l'Égypte ancienne, en passant par la Grèce antique, le fromage a toujours eu une place importante. La Bible même n'en est pas exempte. Nous pouvons prendre Job, chapitre 10, verset 10, « Ne m'as-tu pas coulé comme du lait? Ne m'as-tu pas fait cailler comme du fromage ?» De conquête en occupation, des monastères aux fermières qui cherchent à valoriser leur lait, les recettes de fromage se transmettent et évoluent jusqu'à nos jours. Alors, qu'est-ce qu'un fromage? Nous l'avons vu, c'est un dérivé du lait, obtenu par coagulation suivi d'un égouttage qui permet une meilleure conservation. Nous avons ainsi un fromage frais, dont le goût va dépendre du lait, de quel animal il provient, qu'est-ce qu'a mangé cet animal, ainsi que l'origine de la coagulation. Cette base peut être ensuite affinée, ce qui va donner la diversité des saveurs que nous connaissons. Un point important entre le caillage et l'égouttage est le moulage. Pourquoi, me diriez-vous? Eh bien, parce qu'au-delà du sacro-saint moulage à la louche que nous entendons, c'est précisément cette étape qui a donné le nom de fromage. Il vient en effet du bas latin formaticus caseus, littéralement fromage moulé dans une forme, dont nous conservons que formaticus, dérivé de forma, forme, moule, qui donnera formaggio en italien, et par métathèse, fromage en français. A noter que l'espagnol, queso, et l'allemand, case, sont dérivés de caseus, qui en français donnera la caséine, principale composante du fromage. Nous avons vu son origine, ce qu'il est, mais comment est-il fait? Eh bien, nous avons partiellement répondu à cette question. À l'origine, le fromage provient du lait coagulé par l'action de la présure contenue dans l'estomac des animaux, plus précisément du quatrième estomac de jeunes ruminants, la caillette. Et encore aujourd'hui, c'est majoritairement le cas. Mais il existe d'autres manières de faire coaguler le lait, par action microbienne, de ferment ou encore végétale. Ce qui permet, outre des saveurs différentes, de permettre l'accès au fromage aux personnes végétariennes, par exemple, ou dont la culture interdit la consommation de certaines parties animales. Nous aurions encore mille choses à vous expliquer. La différence entre lait cru et pasteurisation, qu'est-ce qu'une pâte cuite, quelles sont les étapes de l'affinage, la différence entre fermier, artisanal et industriel, les différents types de bactéries, de ferments, et leur impact sur le goût, la texture et, bien entendu, l'odeur. Nous mettons un point d'honneur, avec Caroline, de revenir sur le sujet avec à la clé de nouvelles explications et, bien entendu, des dégustations. L'utile à l'agréable, en somme. Mais, en attendant la prochaine chronique fromagère, à ceux qui se demanderaient s'il faut rester en Eure-et-Loire pour déguster une feuille de Dreux, passer la frontière du Nord pour se régaler d'un camembert normand, je répondrai « Dirigez-vous à l'Est, en terre briarde. Pourquoi ? Écoutez plutôt. » Egin Hard, un intellectuel qui a écrit la première biographie de Charlemagne, relate que ce dernier, en rentrant d'Italie, où il venait de battre les Lombards, s'arrêta au prieuré de Rueil-Elbris. Là, le père prieur fit remonter de sa cave quelques-uns des merveilleux fromages de Brie, qui lui étaient personnellement remis au titre de la dîme. L'empereur et sa suite goûtèrent copieusement. Si cela ne vous convient pas, Talleyrand, un homme d'État diplomate français du XVIIIe siècle, qui est, d'après Wikipédia, à qui nous pouvons bien entendu faire entièrement confiance, au moins sur ce point précis. Donc, Talleyrand est réputé pour sa conversation, son esprit et son intelligence. Ce dernier a déclaré lors du congrès de Vienne en 1815 le Brie de Meaux, prince des fromages et roi des desserts. Je plus sois, briard d'origine, je pourrais difficilement être plus objectif. Alors promis, si prochaine chronique il y a, l'Eure-et-Loire sera à l'honneur, mais la Brie, j'entends les Brie, seront toujours mes fromages de cœur.
Faites du Brie pour Charles. Et maintenant, passons à Dimitri.
Bonjour à tous. Et top ! Représentant entre 40 et 50% des ventes automobiles, j'ai connu un gros succès depuis ma naissance dans les années 80 aux États-Unis. Dérivé du 4x4 et synonyme de liberté, je repose principalement sur une plateforme de berline. Ma garde au sol importante se joue des dodanes et ma position de conduite élevée est un grand plus pour prendre tout le monde de haut et avoir un meilleur angle de vue sur la route, ce qui est plus sécurisant. Disponible en 2 et 4 roues motrices, je peux facilement sortir des sentiers battus sans dégrader le confort et je suis également à l'aise sur route. Je suis...
Le SUV !
Exact ! Le SUV a le vent en poupe depuis ces dernières années. D'ailleurs, ça veut dire quoi SUV ? C'est un acronyme pour Sport Utility Vehicle, ou véhicule utilitaire sportive. On peut dire que c'est un mélange entre une berline et un 4x4. Mais pourquoi un tel succès ? Comment ce véhicule s'est autant démocratisé en l'espace de 40 ans ? Pire, quel est l'impact d'un tel véhicule réparti de part et d'autre du globe, n'en déplaise aux platistes ? Pour cela, intéressons-nous au monospace, aujourd'hui en voie d'extinction. La mode des monospaces, c'est Renault qui l'a lancée dans les années 80, ou en 1984 pour être plus précis. Ce qui a fait son succès, c'est de pouvoir emmener 7 passagers à 180 km/h. C'est aussi grâce à sa modularité qui permet de retirer les 5 sièges arrière, n'en garder que 3, ou même retourner les sièges avant pour faire un salon à 4 à l'arrêt. Il est également très spacieux, possède un plancher plat et une position de conduite élevée, ce qui est un grand plus pour le confort, la sécurité et la convivialité, d'où le slogan utilisé « la voiture à vivre ». C'est la voiture familiale par excellence et très appréciée des enfants de par ses aspects pratiques. Mais avec le succès écrasant des SUV, les monospaces deviennent de moins en moins attrayants. Mais pourquoi ? À cause de certains éléments stylistiques habituellement attribués aux voitures à vocation plus sportive, avec notamment la forme des feux qui est plus travaillée, une ceinture de caisse plus élevée, des arches de roues soulignées, un arrière plus haut, des surfaces vitrées et des porte-à-faux réduits, et des diamètres de jantes plus élevés, ce qui rend les monospaces, pourtant centrés sur les aspects pratiques au détriment de l'esthétique, moins dynamiques et démodés. D'autres paramètres sont à prendre en compte, comme la position de conduite élevée qui procure un meilleur angle de vue sur la route. Si cela est plébiscité, c'est à cause de certaines normes imposées aux constructeurs en termes de sécurité. Les berlines ont vu leur hauteur de pare-brise relative s'effondrer. La faute aux designers qui ajoutent des capots bombés pour rechercher des effets de style, devant aussi caser des moteurs dans des baies de plus en plus étroites, avec des structures qui devront encaisser de manière efficace les chocs pour répondre aux normes. Cette volonté de rigidifier la caisse se traduit aussi par des montants de pare-brise toujours plus larges, ce qui réduit les angles de vision horizontaux et verticaux. Les vitres teintées, les vitres de custode toujours plus petites, ainsi que l'élargissement des portes et de la carrosserie ont eu raison de pousser les clients à se tourner vers les SUV. Autre argument, la sécurité. Grâce à la position plus élevée, un sentiment de sécurité et de domination prend place dans la tête des clients. Mais la réalité est tout autre. Par rapport à une berline de même segment, un SUV est plus haut et possède une garde au sol plus élevée. Je tiens aussi à ajouter que, combiné à un long capot, cela a pour effet de créer un angle mort pouvant dissimuler jusqu'à une dizaine de personnes assises. Cette position haute est surtout pratique pour se jouer des dodanes, toujours plus nombreux et ne respectant pas toujours les normes, en étant plus haut que la moyenne. Les SUV sont aussi plus lourds de 20% et moins aérodynamiques, et sont moins sécurisants que nous ne laissent croire les publicités. Par exemple, avec un SUV de 2 tonnes, lors d'un choc contre un mur, la force sera de 50 tonnes, la force de l'impact, sous-entendu, contre 25 tonnes pour une berline deux fois plus légère. Donc, plus un véhicule est lourd, plus les dégâts sur le véhicule ainsi que sur les autres sont élevés. Il est donc nécessaire d'ajouter des renforts pour rigidifier la caisse, l'alourdissant au passage, et c'est alors le coup du serpent qui se mord la queue. L'ironie du SUV est aussi à chercher dans son utilisation. Alors que les publicités montrent que les SUV sont faits pour conquérir les grands espaces naturels, nombre de gens achètent des gros SUV pour faire un simple trajet domicile-travail, et qui plus est, ils sont majoritairement vendus avec deux roues motrices. Pour remuer davantage le couteau dans la plaie, les SUV affichent un bilan écologique médiocre par rapport à une berline de segment équivalent. Les écarts de consommation et d'émissions polluantes tournent entre 10 et 25% en fonction du segment. C'est notamment dû à leur CX moins bon par rapport à une berline, ainsi qu'au poids élevé, ce qui nécessite plus de puissance pour déplacer le véhicule, augmentant la consommation et les émissions. la Belgique a pris l'initiative de bannir les SUV dans les entrevilles. En France, une taxe au poids s'élevant à 10 euros au kilo a été mise en place. À cela s'ajoutent deux failles. La taxe ne s'applique qu'aux véhicules pesant plus de 1,8 tonne et les véhicules hybrides électriques en sont épargnés. Pour conclure, les constructeurs se servent de publicités mensongères pour inciter les consommateurs à acheter toujours plus gros et toujours plus cher, voire toujours plus polluant. Il faudra penser à varier ces modes de transport pour assurer une bonne transition écologique.
Merci à tous et on vous donne rendez-vous pour la prochaine émission.